Et tout de suite, on est averti. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le maître, Abiodé, il ne sait pas lire? Est-ce qu'il ne sait pas que ce verset concerne les ustensiles du temple? Alors, qu'est-ce que Ravezera, la chutzpah de lui dire? Tu ne sais pas lire, là, ça concerne les ustensiles du temple. On va voir que ça concerne les ustensiles du temple. Et ça, c'est le verset 21. Qui koama Hashem Tsebaot Eloke Israël. Le verset d'avant. Car ainsi a dit, dit Jérémie, Hashem Tsebaot, Dieu d'Israël, à la Kelim Anotarim, à propos des ustensiles qui restent, Bet Hashem dans la maison de Dieu, dans le temple, ou Bet Melech Yehuda Yerushalayim, et dans la maison du roi de Juda et Jérusalem. Babela Yuraou. Il s'agit des Kelim, depuis dans le pshat direct du texte. Ken. Alors qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut en disant, moi c'est ce verset-là qui m'empêche de monter en Eretz Israël, enfin il ne voit pas les signes. Vous suivez? Moi Hashem Tzvaot, bon, c'est notre problème. Ça ne fait pas partie du sujet, votre question. Je vais vous répondre, mais ça va nous prendre une heure. Vous avez compris la question que je pose? Il est évident que Rabbi Yehuda a lu que c'est les Kelim. Alors qu'est-ce qu'il dit? Babela Yuvaou. On va plaider le dossier de Rabbi Yehuda. Bien sûr qu'il sait que c'est les Kelim. Il va dire ceci. Mais je voudrais que vous exprimiez, vous plaidiez pour lui, comment vous résoudriez cette difficulté? Oui, où on est du point de vue de la méthode. On ne peut pas penser que Rabbi Yehuda serait comme un professeur de mathématiques qu'on a pris en erreur d'addition. Il ne sait pas lire. Il sait très bien qu'il s'agit des Kelim, c'est écrit. Et pourtant, il cite ce verset, il dit Babela Yuvaou, adieu pour lui. Et Rabbi Yehuda qui dit ah ça, eh bien c'est pour l'écrit. On ne comprend rien dans ce dialogue. C'est clair? Bon, je vous donne la réponse tout de suite. Vous ne voulez pas travailler, hein, pour vous-même. Très bien. C'est le signe. Mais en quoi? Ah non, c'est pas le signe. Ah oui, mais en quoi? Mais on va essayer de faire parler à Rabbi Yehuda là-dessus. Je vais dire, voilà ce qu'a dit le prophète Jérémie. Le temple a été détruit. Ça, c'est le signe que la galoute, c'est la galoute. C'est pas diaspora, c'est galoute. Tant qu'il y a la métropole, c'est diaspora. S'il n'y a pas la métropole, c'est galoute. C'est clair. Hein? Vous vous rappelez le séminaire précédent, la différence entre galoute et diaspora. Et le temple est détruit et les ustensiles du temple ont été envoyés à Babel. Ce n'est que quand Dieu nous permettra de les ramener que c'est le signe qu'on revient, qu'il faut revenir. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris maintenant Rabbi Yehuda? Il dit, c'est de ce verset-là qui concerne les Kelim que je dis que ce n'est pas encore Yom Pokdi. Puisque le Yom Pokdi, eh bien, il suffit dans le verset suivant. Le verset précédent, c'est le verset des Kelim. Alors, tant que les Kelim ne sont pas ramenés, ce n'est pas le Yom Pokdi. Non? Mais d'abord, il faut qu'on sache plus. Mais sachez bien que, ça, c'est, je vais vous faire le plaidoyer de Rabbi Yehuda en bonne part. Okay? Mais c'est utilisé, cette thèse, en très mauvaise part, en très mauvaise foi, je veux dire aussi, mais d'abord, en bonne part, bien, en bonne foi. Bien sûr, ça veut dire que quand les Juifs reviennent avec ces Kelim, c'est le signe qu'ils reviennent. Mais s'ils ne reviennent pas avec ces Kelim, c'est pas le signe que c'est le temps de revenir. C'est un peu ce que les Juifs orthodoxes vont accuser les Syriens. Vous revenez sans la Torah. Vous y êtes? Nous allons voir que ce n'est pas vrai, on est revenu avec la Torah, enfin, ce n'est pas pour les Syriens. Okay? Mais... voilà l'argument de Rabbi Yehuda. Ça veut dire, oui, pour la construction du temple. Pas avant, pas plus, pas moins. C'est clair? Bon. Et Rabbi Zera, maintenant, devient difficile. Parce que Rabbi Zera connaît très bien la lecture de son maître. Pas parce que son maître, parce que c'est la lecture de la Torah. Vous savez? Alors c'est maintenant Rabbi Zera qui devient difficile. En lui disant, mais c'est lequel il dit? Mais il a déjà répondu. C'est clair jusque-là? Et vous allez voir dans la suite. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit. La première partie, c'est ce que Batiat a répondu. En ce sens, bon, j'ai suivi ça. En ce sens que, pour Rabbi Yehuda, le signe, c'est quand on revient avec les Kelim. Okay. Alors, la réponse de Rabbi Zera, c'est comme tu as dit. Ça veut dire ça, c'est pour le retour définitif de la construction du temple. Mais ça n'empêche pas la ralia, ça n'a rien à voir. Ça y est, c'est clair ? Vous avez compris ? Et je voudrais un peu insister là-dessus pour Rabbi Zera. Et ensuite revenir à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça ? Parce que ça veut dire, Rabbi Zera lui dirait, tu as une exigence trop grande. Il s'agit d'autre chose. Ça se dit pour lui, c'est la construction du temple. Mais moi, je vais aller à mes petits frères. Vous y êtes ? Quel est le problème ? C'est clair pour tout le monde ? Quel est le problème ici ? C'est la relation entre la fin de l'exil et le temps du Messie. Et qu'il y a une attitude et qui est erronée, qui consiste à dire la fin de l'exil, ça ne peut être que quand le Messie viendra. Mais, alors que c'est deux choses différentes, liées, mais deux choses différentes. Une chose est mettre fin à l'exil, une autre chose est le fait que le Messie se révèle. Je voulais bien répéter ça pour que ce soit clair. Parce que, et ça, quand on y arrivera, je vous montrerai dans le texte, chaque fois que la Torah parle de l'exil et de la fin de l'exil, ça veut dire le retour, il n'y a aucune allusion au Messie. Le Messie, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, cet argument qui consiste à dire on ne vient que quand il y a le Messie, ça porte à faux. Parce que, il y a d'abord on vient, et d'autre part, il y a le Messie. Est-ce que c'est clair, jusque-là ? Tout le monde avait compris ? Bon. Et je vous montrerai d'ailleurs même comment c'est codifié dans Maïmonide. Le verset que cite Maïmonide pour dire qu'il faut croire au Messie, c'est un verset où il n'y a pas d'allusion au Messie. C'est le verset qui dit que les Juifs reviennent. Parce que le Messie ne peut se dévoiler que si les Juifs reviennent. Ça veut dire que tout est à l'envers dans cette thèse-là. D'abord, il faut que les Juifs reviennent. Alors le Messie se dévoile. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, le Messie est appelé le roi d'Israël. Mais s'il n'a pas de sujet, comment il va être roi ? Il faut d'abord qu'il ait sujet pour qu'il y ait un roi. Ça veut dire qu'on va inverser ce problème. Ce n'est pas nous qui attendons le Messie, c'est lui qui nous attend. Seulement, c'est clair, et les gens de Babel le savent, qui ne nous a pas donné rendez-vous à Babel, mais à Jérusalem. Vous avez compris ? Donc, qu'est-ce qu'il travaille là ? En tout cas, au niveau de la bonne foi, du discours de Rabbi Yehuda, je pense que c'est bien clair. Ça veut dire qu'il va exprimer d'emblée une exigence que Rabbi Zera dit, c'est exagéré, c'est trop. Et vous allez voir dans l'argument tout de suite, au celui d'après de Rabbi Zera, ça va être là pour ce soir parce que l'heure arrive, mais je veux déjà arriver au deuxième argument de Rabbi Zera, lorsque Rabbi Yehuda va lui répondre. Là-dessus, c'est que cette exigence que vient de formuler Rabbi Yehuda, quand les Kélim reviendront, ça c'est le stade ultime de la fin des temps, de la fin des temps, disons, de la fin des temps de vie, la construction du temple. Est-ce que c'est clair ? Mais d'abord le stade préalable de la restauration de la nation d'Israël qui doit avoir un temple. Alors vous rattacherez ça à un problème qu'on étudiera par la suite. Le temps messianique commence par le rassemblement des exilés, ça s'appelle Machir Ben Yosef, et s'achève par la construction du temple, ça s'appelle Machir Ben David, après c'est Olam Haba. Ça va jusque-là ? C'est clair ? Alors la discussion est de quel messie tu parles ? Est-ce que tu parles de Machir Ben Yosef ? Nous y sommes. Tu vois, le Machir Ben David, ah, ça c'est une exigence de ta prida, c'est trop loin. Ça c'est autre chose. Donc, tu as dit Hacher, c'est exact. C'est clair. Hein, c'est vrai. J'ai bien suivi ça. Alors, justement, c'est pourquoi il se tait. Voilà, c'est pourquoi il se tait. Et il va citer un autre verset. Là, il se tait, là, tu n'as rien à répondre. Mais il va lui citer un autre verset. Il dit, j'ai un autre verset. Si tu me dis, ça c'est l'équilibre, j'ai commencé à vous le dire, j'ai un autre verset. Ça va jusque-là ? Stop. Alors, on suit dans la Gemara. Vers Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Alors, Rabbi Yehuda, Ktiv Kra Harina. Il y a un autre verset. Quel verset ? On va le prendre dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7. Nous verrons que ce verset se trouve trois fois avec des petites nuances dans le Cantique des Cantiques. On va le prendre, là vous avez la référence de la Gemara, le premier verset dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Notez la référence. Alors voyez comment a été le raisonnement. Okay. Rabbi Yehuda a dit, Adyom Pogni. Rabbi Zera lui répond, Kelim. Rabbi Yehuda saute. Il a compris quoi il dit. Ça va jusque là ? Mais il démissionne pas, si j'ose dire. Il va citer un autre verset. Tu as trouvé ? Voilà ce que dit le verset. Ishbarti etrem benot Yerushalayim, je vous adjure, fille de Jérusalem, bitwa otobairot asade, par les biches et les gazelles des champs, intairu, si vous éveillez, et intaoreru, si vous réveillez, et à avoir l'amour, à se faire face avant qu'elle ne le veuille. Bon, c'est un très beau verset du Shirachidi. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre sujet? L'expression du verset, à se faire face avant qu'elle ne le veuille, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais demander une femme en mariage avant qu'elle ne le veuille, à se faire face, c'est la même chose que Radium Pokti. Jusqu'à ce que je vous fasse signe. Je dis rapidement aujourd'hui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je reprendrai par la suite, c'est que le cantique des cantiques a toujours été expliqué comme étant le dialogue entre Dieu et Israël lorsqu'Israël est en exil. Et alors, qu'est-ce que dit le verset ici? Je vous adjure, fille de Jérusalem, c'est pas les juifs de Jérusalem, les filles de Jérusalem, c'est l'égoïsme. Il y a Jérusalem et les filles de Jérusalem, les filles ingrates. Mais notre Yerushalayim, c'est l'égoïsme. Ça veut dire que la bien-aimée sait qu'elle est en fiançailles de veuvage, en veuvage de fiançailles, c'est-à-dire des fiançailles où ils sont séparés. Vous suivez? Ça, c'est l'église, en vue d'un mariage. Mais voilà, on n'a pas mérité les fiançailles où on se rencontre, on a mérité les fiançailles où on est séparés. Ça, c'est ce que j'appelle les veuvages de fiançailles d'après une expression du jour. C'est un thème très important. Okay? Lorsqu'il est là, elle n'est pas là, lorsqu'elle est là, il n'est pas là. Vous avez remarqué le dialogue dans le conseil des mondes. Et alors, elle sait qu'il faut laisser passer le temps des fiançailles. Et elle demande au Goïm, je vous adjure, ne m'obligez pas à réveiller l'amour avant le temps. Ça serait mariage par anticipation, et il risque de ne pas marcher. Okay? Est-ce que c'est clair? Et ça veut dire, ne me persécutez pas trop que je sois obligé de revenir plus vite. Je cite le commentaire du verbe. Ça va jusque-là? Non. Ishbarti etrem benot Yerushalayim. Je vous adjure, fille de Jérusalem, la bien-aimée qui est Knesset d'Israël sait très bien que tous les goyim sont les filles de Jérusalem. La preuve, hein, ils veulent tous avoir Jérusalem en lettres capitales. Donc, je vous adjure, n'éveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille ou avant qu'elle ne le veuille. Ça va jusque-là? Alors, donc, Rabbi Yehuda contre-attaqué avec ce verset en disant, ah, je ne verse pas. Et il y a un verset qui dit, encore un autre verset qui dit, il faut que l'amour s'éveille. Et Rabbi Zera, je paraphrase, pourrait dire Rabbi Yehuda, pourrait dire Rabbi Zera, il y a toi seul qui es amoureux. Okay? Mais pas le peuple juif. On n'a pas entendu que le peuple juif s'est éveillé d'amour pour les Israël. Toi, vous avez compris le problème? Je ne sais pas si vous rappelez qu'à l'époque du début du sionisme, on traduisait en français les Hovev et Tion par les amants du sionisme. Vous vous rappelez? Bon, alors Rabbi Zera se doit de répondre à ce verset maintenant. Vers Abézera, Haou, Abézera va dire ce verset-là, ça veut dire, et le tient son maître, Shelo Ya'alou Israël Bahoma, ou Kehoma. Ça, ce verset qui me dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille, ça, c'est la promesse qu'on avait faite de ne pas revenir littéralement en muraille. Regardez Rashi sur Kehoma, vous avez Rashi à la fin de la première ligne en haut. L'argument de Rabbi Zera. Il dit à Rabbi Yehuda, ce verset qu'il m'a cité du Cantique des Cantiques, ça nous savons ce que ça veut dire. C'est la promesse qu'on a faite de ne pas revenir en muraille. Regardez Rashi. Shelo Ya'alou Bechoma, littéralement ça veut dire qu'il n'escalade pas la muraille. Vous avez Rashi sous les yeux? Donnez-le mon souci. Voilà, vous l'avez là. Nous sommes déjà dans la deuxième partie du texte. Hein? Rashi, immédiatement plus haut, et vous l'avez à la fin de la première ligne. Alors Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire, Bechoma? Beyad Hazaka, Tira, Yachad, Beyad Hazaka. Deux indications dans le Rashi. Tous ensemble, Yachad, ensemble. Ou Beyad Hazaka, et avec une main forte. Ça veut dire, prêt à faire la guerre si c'est nécessaire. Mais il y a deux éléments. Ensemble, ça veut dire à l'échelle nationale, et Beyad Hazaka. Alors Rabbi Zera va dire à Rabbi Yehuda, ton argument ne tient pas pour moi, c'est la même chose que tout à l'heure, tu demandes le retour de la fin des temps, c'est clair, le retour définitif. Mais moi, je vais monter en Eretz Israël. Vous suivez jusque-là? Ça va? Bon. On va s'arrêter là maintenant parce que l'heure est arrivée. Sinon, je voudrais vous indiquer que lorsqu'on va étudier ces six signes, parce que Rav Yehuda va contre-attaquer jusqu'au moment où il s'arrête. Rav Yehuda, okay? Ça veut dire que tous les arguments qu'il donne, finalement, il va s'arrêter. Et c'est là que Rav Eliezer va enseigner, si vous accomplissez ce serment, on cherche lequel, okay? Il y a six serments, six signes, c'est bien, sinon vous allez devenir effrayé. Et alors, ce que je voulais expliquer, c'est ceci. C'est que nous avons diagnostiqué que les signes qui sont donnés dans la Gemara, pour la première fois, sont apparus de notre temps. Ça va être, si vous voulez, l'objet principal de l'étude. Pour le moment, on débroussaille la Gemara pour la lire. Hein. Et effectivement, sur ce premier point, mais je vous le donne à l'avance, on va se revoir que dans un mois peut-être, non, un peu moins, quand même, trois semaines. C'est ceci, c'est que, jusqu'au temps du ciel, la volonté de revenir à travailler sans arrêt, mais c'est toujours à l'échelle individuelle. C'est clair. La première fois que c'est le peuple juif en tant que nation qui a déclenché le retour, c'est au temps du sionisme. Ça veut dire que ça rentre très exactement dans la définition du premier signe. Yachad Beyatrazak. Jusque-là, il n'y a eu que des tentatives messianiques qui ont toujours tourné mal, d'ailleurs, et à l'échelle individuelle. Et jamais, comme le dit Rashi ici, pour dire qu'est-ce que c'est qu'un Romain, Yachad et Beyatrazak. Vous suivez jusque-là? Ça veut dire que la caractéristique du sionisme dans ce problème, c'est que c'est un mouvement national, Yachad. Il est prêt à la force, si c'est nécessaire, ça arrive. C'est jamais arrivé pendant le début. Ça, comme ça. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Bon. Et justement, nous allons voir que l'argument des antisionistes contemporains, c'est de dire qu'on a violé ce serment-là, qu'on avait justement promis de ne jamais revenir ensemble et par terre. Et vous allez voir qu'ils lisent à l'envers. Ça, c'est Rabbi Zera qui explique à Rabbi Yehuda que lui, Rabbi Zera, ne se considère pas dans ce cas-là. Parce que ce cas-là n'arrivera qu'à la fin des temps, quand Israël, à l'échelle nationale, est prêt à faire la guerre, viendra. Et ça, c'est positif pour la définition du sionisme. Alors, ils font dire à Rabbi Zera qu'on est là-dessus. Est-ce que c'est clair? On reprendra ce raisonnement. Et vous voyez comment, même ceux qui ont séduit entre les mains, si leur option est à l'envers, ils disent à l'envers. C'est clair ce sionisme? Alors, on reprendra tout ça. Il y a six signes et un septième. Et on se verra là.
Est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec ce qu'on a dit?
Oui. J'entends pas.
Est-ce qu'on peut mettre en rapport avec ce qu'on a dit avec la chose?
Oui, bien sûr.
L'empêchement d'arriver et tout ça qui était empêché, empêché par les.
Oui, bien sûr. Non, ça va de soi. Ça va de soi. Oui. Est-ce que quelqu'un de courageux pourra me rendre compte? Une discussion entre Rabbi Zera et son maître Rabbi Yehuda, vous vous rappelez, sur le verset de Bavela Yivahu, qui est le verset de Jérémie, chapitre 27, verset 22. Alors, cette première discussion, je n'y reviens pas. Et finalement, sur ce verset-là, finalement, Rabbi Yehuda ne répond pas au dernier argument de Rabbi Zera. Simplement, je formule très brièvement le thème de cette discussion. Il s'agissait de savoir si on avait le droit, même avant le temps prévu par le verset de Jérémie, c'est-à-dire les signes, avant que n'apparaissent les signes du temps prévu par ce verset, Odium adium pokdi ota, jusqu'au moment où je leur fais les signes. Rappelez-vous cela. Et que là, selon la thèse de Rabbi Yehuda, qui est acceptée par Rabbi Zera, il s'agit du retour collectif. Rappelez-vous cela. Bon. Et Rabbi Zera, lui, réclame le droit d'un retour individuel, même avant que ne s'applique ce verset de Rabbi Yehuda. Et donc, Rabbi Yehuda se tient. Si il a empêché son élève de monter en Eretz Israël, c'est pour des raisons personnelles, mais qui n'ont pas à rentrer dans la discussion de Halakha. C'est clair ? Simplement, je vais vous donner une des hypothèses explicatives qu'on a chez les commentateurs, des raisons personnelles de Rabbi Yehuda, d'empêcher Rabbi Zera même de faire sa alia individuelle, et en se basant sur le verset lui-même. Le verset lui-même parlait des clés kodesh. Okay. Vous vous rappelez, toute la discussion, c'était que le verset dit que Dieu ramènera les ustensiles du temple, les clés kodesh, alors que la discussion portait sur les personnes, les juifs. Vous vous rappelez de cela? Et on avait élucidé cela. Le temps objectif avec le signe évident de ce verset pour les juifs, c'est quand les clés kodesh reviennent. Vous vous rappelez? Donc Rabbi Yehuda savait ce qu'il voulait dire. Mais la réponse de Rabbi Zera portait sur le fait que je peux me borner à lire le verset au niveau des clés kodesh eux-mêmes, des ustensiles eux-mêmes, et donc ça me laisse la possibilité à l'échelle individuelle de faire cette alia. La motivation de Rabbi Zera, je pense qu'on l'a étudiée, c'est qu'à partir du moment où l'échelle individuelle, même dans le temps de l'exil, le temps légitime de l'exil, on ne supporte pas la vie dans l'exil, on préfère quand même la vie encore plus difficile que celle de l'exil, qui était l'exil en Eretz Israël occupé par les Perses, les Turcs. Est-ce que c'est clair? C'est vrai. Effectivement, nous avons énormément, dans les temps de ces 2000 ans, d'exemples de juifs, surtout de rabbins d'ailleurs, qui n'arrivent plus à supporter d'être dans l'exil en exil, et qui préféraient la vie très difficile en Eretz Israël occupée par les conquérants. C'est clair. Donc, il y a d'ailleurs, comme vous le savez, une continuité sans arrêt. Les deux dernières grandes alliés avant le sionisme, c'était la Alia du Maroc, il y a à peu près 300 ans, et la Alia des élèves du Gaon de Vilna, qui a précédé immédiatement. Avant, c'était l'école de Rachid. Vous vous rappelez de ça. Alors, on arrive maintenant à une discussion, au rebondissement de la discussion sur le verset, un deuxième verset que va objecter Rav Yehuda à Rabbi Zera. Alors, donnez-moi une feuille, je vous montre où ça se passe. Voilà, vous êtes dans cette deuxième partie du texte, à la troisième ligne, deuxième mot, de Rav Yehuda Ktir. Dans la deuxième partie du texte, troisième ligne, deuxième mot. Vous y êtes? Alors, lorsque Rav Yehuda se tue sur la première discussion, pour les raisons qu'on vient de voir, je ne vous ai pas donné la raison de Rav Zera, c'est grave. La raison de Rav Zera, je vous l'ai donné. Je ne vous ai pas donné la raison de Rav Yehuda. Alors, en particulier, le Marsha dit cela, mais Beremet, par allusion. Mais c'est dans d'autres commentateurs que on appelle quelqu'un qui sert à la communauté, on l'appelle un clécodèche. Par exemple, les Kohanim, les Lévites, aujourd'hui les rabbins, les professeurs, je ne sais pas comment dire, les directeurs d'école, Rachid et Chivos, on les appelle les clécodèches, des ustensiles sacrés. Et avec le sens de tout à l'heure. C'est des sacrés ustensiles. Et alors, Rabbi Yehuda peut avoir cette motivation. Toi, tu es clé kodesh. Et donc, tu ne reviens pas, j'ai besoin de toi à Babel. Vous avez compris la motivation. Et dans tous les cas, vous avez vu depuis le début, vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Yehuda dans sa baignoire, c'était pas du tout qu'il s'oppose à la halakha de la braïta, c'est-à-dire que dans tous les cas, il vaut mieux habiter Israël, vous vous rappelez, mais qu'il a des raisons personnelles, particulières, importantes. Et puisqu'on est dans le temps de l'exil légitime, le temps légitime de l'exil, il peut faire jouer ces raisons-là. Et vous voyez, tout ce que ça porte, c'est très affiné comme argumentation, parce que toi, tu es clé kodesh. Alors ne m'objecte pas qu'il s'agit de clé kodesh, il s'agit de toi, tu es clé kodesh. C'est clair le bon, ça vous mettra à l'aise par rapport aux juifs pieux, ou même pas pieux, les rabbins, enfin très pieux, de la Gola, qu'on peut considérer comme des clé kodesh. Ils sont vraiment des clés kodesh, alors la thèse de Rabbi Yehuda, je pourrais. C'est clair. Mais Rabbi Zera ne supporte pas quand même. Et c'est pourquoi il n'osait pas aller prendre congé de Rabbi Yehuda. Mais ce qui l'a rassuré, c'est qu'il savait très bien que Rabbi Yehuda ne lui en voudrait pas, puisqu'il parlait hébreu dans sa baignoire. Vous vous rappelez de ça? Ce Rabbi Zera, la Gemara raconte, il a jeûné, en arrivant en Israël, il a jeûné 40 jours pour oublier la Torah de Babel et être disponible pour la Torah de Israël. Pendant ces 40 jours, il était malade de ce jeûne et il ne pouvait pas porter de cuisine à cause de sa maladie. Le jour où le jeûne a pris fin, alors nous avons un maracé très important dans la Gemara de Brachot, où on lui a donné l'autorisation, la première fois qu'il a refait la prière avec l'exiline, de rire dans sa prière. Vous vous rappelez de ce maracé, ce qu'ils ont étudié. Et ici d'ailleurs un verset de Isaïe, le peuple qui avait vécu dans l'obscurité du tunnel finira par voir la lumière. Il dit ça, l'obscurité du tunnel, c'est la Torah de Babel, Talmud Babel. Imaginez le niveau de sionisme de Babel. Et effectivement, ça nous apprendra, on aura peut-être l'occasion de l'apprendre dans notre étude, dans notre étude, la différence, on l'apprendra avec le Rav Kook d'ailleurs, la différence de nature de la Torah de Babel et de la Torah de Beth Israël. La Torah de Babel, elle est cachère. Elle est Kedusha Negela Teva, ce qu'on a cité au premier cours. Tandis que la Torah d'Eretz Israël, elle est Kedusha du Teva. C'est le Talmud Yerushalmi. Et nous sommes dans un temps, je l'ai dit, où on commence un peu à retrouver le Talmud Yerushalmi. Et je pense que dans quelques générations, ça commencera déjà à diffuser. Pendant tout le temps de l'exil, on avait étudié surtout que le Talmud de Babel, et quelques rares grands spécialistes, disons, étudiaient le Yerushalmi. Un des spécialistes contemporains du Yerushalmi, d'ailleurs, c'est le Rav Goren, qui a écrit un commentaire très très important du Yerushalmi. Il y a un deuxième commentaire qui vient de paraître il y a à peine un an, peut-être, d'un Rav de Russie, qui a fait un commentaire du Talmud de Yerushalmi, qui l'a envoyé en Eretz Israël. Je ne rappelle plus le nom, qui vient de faire. Il y a eu de grands articles dans les journaux l'année dernière à ce propos. Ça ne vous a pas frappé. Il y a un troisième spécialiste israélien, mais tout ça m'échappe. La Matza, ça porte sur le Zikaron, Bezahar. Bien. Et alors, à ce moment-là, lorsque Rabbi Zera avait répondu « Ah, ou du Klesharet, qui ?» Ton verset, ça concerne les Klesharet, les Klesh Kodesh, okay. Le Rabbi Yehuda, « Ktiv Kra Harina ». Pour Rabbi Yehuda, il est écrit un autre verset. Et ce verset, nous allons le trouver trois fois et une quatrième dans le Shir HaShirim. Et la première fois qu'il apparaît dans le Shir HaShirim, c'est le chapitre 2, verset 7. Alors vous avez le Tanakh, prenez-le dans le Tanakh. Parce que dans votre Gemara, il est cité pas entier. Alors, chapitre 2, verset 7. Peut-être que je peux avoir un panneau, ça y est. Dans Shir HaShirim, chapitre 2, verset 7. Alors, ce verset, je vous dis, l'essentiel de ce verset, nous allons avoir le trouver quatre fois dans le Shir HaShirim. Chaque fois avec une nuance. Hein? Mais ce n'est pas déjà ce soir qu'on étudiera à ce niveau-là. On va prendre connaissance du contenu même du verset que cite Rabbi Yehuda dans une deuxième controverse avec Rabbi Zera. La première, elle est réglée, il n'y a plus de difficulté. Bon, alors je vous rappelle, très grosso modo, en résumé en une phrase, ou si je peux, deux, des quatre ou cinq cours d'introduction qu'on a eus, c'est nous sommes ici sur une des sources qui indique que quand le temps légitime de la galoute a pris fin avec les signes prévus par les prophètes, la situation en galoute devient dangereuse. C'est vrai, à relier avec notre question générale les explications de la Shoah d'après la Gemara elle-même. Vous vous rappelez, c'est une première référence que nous avons. Alors, voilà le verset que va citer Rabbi Yehuda. Je parti être menant Yerushalayim. C'est là que nous étions arrivés à la fin du cours d'avant Pessah. Je vous avais traduit déjà ce verset, mais on va le reprendre. Vous vous rappelez de cela? On venait juste d'arriver là. Je parti être menant Yerushalayim. Je vous adjure. Et ça veut dire, je vous fais jurer. C'est au passé. Je parti. Ça veut dire, n'oubliez pas que je vous ai déjà fait jurer cela. Je vous ai déjà adjuré de cela. Etrem, Benot Yerushalayim, fille de Jérusalem. Alors là, je vous rappelle ce que vous avez indiqué à ce propos, en passant d'ailleurs. Oui, les filles de Jérusalem, ce n'est pas les filles de Jérusalem. Benot Yerushalayim, c'est les les nations du monde qui se reconnaissent en filiation de Jérusalem. Je ne sais pas comment on dit, une métropole et sa colonie, en hébreu, il dit que ça s'appelle Bat Yerushalayim. Est-ce que c'est clair? Ville de Jérusalem, Bitzvaot ou Bayot Asadé, par les biches et les gazelles des champs, c'est peut-être inverse, hein, aidez-moi. Tzvaot, c'est les biches ou les gazelles, alors là, c'est l'inverse. Ayala, c'est la gazelle ou la biche? La gazelle. Alors, je viens de traduire. Par les biches et les gazelles des champs, imta'iru ve imta'oreu, c'est le premier verset qu'on a rencontré. Si vous éveillez et si vous réveillez, eta'ava, l'amour, achetarpat, avant qu'elle ne le veuille. Littéralement, c'est un féminin. Et dans, chez les commentateurs, on discute de savoir si elle, c'est la'ava, l'amour ne le veuille, ou elle, la bien-aimée. Mais dans tous les cas, ça veut dire que ce stade où l'amour n'est pas encore réveillé, ne doit pas être dérangé avant qu'il n'y ait ce vouloir, avant qu'il y ait les signes de ce vouloir. Et donc, ce verset est très parallèle au verset précédent de Jérémie, « Adiom pogdi » jusqu'au jour où je vous ferai signe, et ici, « Achetarpat » jusqu'à ce qu'elle ne le veuille. Elle fait quoi? Bon, alors je vous rappelle brièvement, ça on l'a déjà étudié la dernière fois, que la situation du Shirachirim, c'est la situation des rapports d'amour entre Dieu et Israël quand Israël est dans l'exil. Ça va jusque-là? Bon. Et par conséquent, là je vais me baser maintenant, assez rapidement, sur un commentaire du Maharal dans son Darouche sur le Shabbat Agadol, où il indique cela, pourquoi il faut faire jurer Israël de ne pas revenir de l'exil avant le temps, et ici, c'est Israël qui adjure les goïms de ne pas trop la persécuter de telle sorte qu'elle ne fasse pas éveiller l'amour, elle au pluriel, avant le temps, qu'elle n'oblige pas Israël et Dieu à se retrouver avant le temps. Maral pose cette question, pourquoi il faut un serment? Et sa réponse est très, très centrale. Il explique très longuement, il vous en donne l'essentiel, la situation d'exil est tellement anormale qu'il faut faire jurer qu'on ne reviendra pas avant pour pouvoir tenir le coup. Que c'est clair. Mais je vais me référer à. Ça, c'est l'enseignement du Maharal, qui est d'ailleurs manipulé par les Neturekarta lorsqu'il cite le Maharal là-dessus. Je me réfère surtout à la Bible de Neturekarta, le Vayoel Moshe du Rabbi de Satmar, qui font dire au Maharal le contraire de ce qu'il veut dire. Si certains d'entre vous avaient assisté à la conférence de Aleph Bet Yehoshua, vous étiez là, vous vous rappelez comment il a expliqué que les premiers temps de l'exil, on était dans cette situation de perception aiguë de l'anormal, et donc de l'Eshana Ava Virushalayim, c'était vraiment pour demain. Et puis après, on a perdu cela, on s'est installé. Mais le Maharal parle dans ce premier moment. C'est-à-dire celui qui a vécu la vie d'exil en tant que vie d'exil, vraiment, sincèrement, et pas par façon de parler, celui-là ne peut pas tenir le coup. Alors, il faut le faire jurer pour qu'il puisse rester en bas. Sinon, il revient. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire donc qu'on fait allusion ici à une fonction de l'exil qui est importante, nécessaire, et que même si on ne la connaît pas, il faut prendre garde à ne pas la gâcher. Or, si on revient trop vite, on risque de la gâcher. Donc, il fallait un serment du Lemar. C'est clair? Mais, encore une fois, pour retrouver la cohérence de la Gemara, il ne faut pas oublier les deux versets. Dans la citation de Rabbi Yehuda lui-même, « Adyom pokdi, achetetra » Il y a un rendez-vous. Il y a un temps fixé avec les signes. Et tant que ce n'est pas encore le temps avec les signes, on a juré qu'on ne revient pas avant, et nous allons voir encore avec Rashi, à l'échelle collective, et en force. Vous vous rappelez, le problème de Rabbi Zera, c'était, je sais bien que ce n'est pas ce temps-là, mais moi je ne peux plus, à l'échelle individuelle, je veux monter. Vous y êtes? Vous y êtes? Mais deuxièmement, on va arriver avec Rabbi Eleazar, peut-être pas déjà ce soir, dans 6 ou 8 lignes, qu'une fois ce temps passé, alors ça devient Efker. Il n'y a plus de garantie de protection sur les îles. Vous voyez donc la structure de ce texte. Je pense que c'est clair. Vous voyez à quel point c'est un texte très clair, mais si on a l'option contraire de ce qu'il dit, on lui fait dire le contraire. Vous avez compris? Et pourquoi? Premièrement, parce qu'on néglige Adyom Pokdi, Adyom Pokdi. Et nous allons voir que la Gemara elle-même va donner les signes. de quand sont ces signes-là. Est-ce que c'est clair? Je me permets encore un affreux mot, on a attendu le signalement, mais pas le signe de la bénédiction. C'était le chant du signe, et tout. Bon, j'ai rien dit. Donc. Alors, maintenant, il faut que Rabbi Zera réponde à ce verset. C'est-à-dire, non pas réponde à ce verset, explique ce verset dans sa thèse à lui. Est-ce que c'est clair? Ce verset de Rabbi Yehuda est très fort. Tu me dis, tu m'as discuté sur les clés codés, d'accord, mais j'ai un autre verset. Ah, c'était pas. Alors Rabbi Zera doit expliquer ce verset, et il va citer d'ailleurs un enseignement qui est l'enseignement de Rabbi Yossé, qu'on va rencontrer tout à l'heure, que bien sûr Rabbi Yehuda connaît, puisque c'est Rabbi Yehuda qui l'a enseigné à Rabbi Zera. Cet enseignement de Rabbi Yossé que va lui réobjecter Rabbi Zera. Mais il va expliquer ce verset pour ménager sa propre thèse à lui, que même lorsque les signes du retour collectif ne sont pas arrivés, le retour individuel est possible, et même si on est un clé codège, c'est clair, parce qu'il y a un autre principe qui a joué. C'est insupportable. Et pourquoi c'est insupportable? Parce qu'on ne tient pas le coup de ce que la Braïta avait dit, c'est qu'on est en position d'idolâtre. Alors il faut être très grand pour tenir le coup en position d'idolâtre. J'ajoute comme, Keili, vous vous rappelez? Et il y a une autre Gemara dans Yoma, un des projets que je vous donnerai la référence, où c'est pas, même pas comme dans la Gemara de Yoma, la Gemara dit Adar Bechut Laaret, Oved Avodazara de Tahara. Pratique l'idolâtrie en état de pureté. Alors, il faut être très grand pour tenir le coup de pratiquer l'idolâtrie en état de pureté. C'est encore un autre niveau. Et Rabbi Zera dit, moi je ne peux plus. C'est clair. Donc il faut qu'il explique ce deuxième verset de Rabbi Yehuda d'après sa position à lui. Et la réponse, l'explication qu'il va donner est très simple. Il va dire, ton verset de Shirachirim, là, à ce faire pas, ça concerne aussi le retour collectif. Et en effet, comment il dit, ce verset veut dire qu'Israël ne revient pas en muraille, Rachid, Yachad, Beyat, Razak, ensemble et à main forte. Vous vous rappelez de cela? Bon, alors il va se dire, ici on est dans un moment difficile pour Rabbi Yehuda. Qui peut expliquer la difficulté de Rabbi Yehuda? Si c'est ça le sens de ce verset, pourquoi Rabbi Yehuda le lui objet? Puisque Rabbi Yehuda connaît que c'est le sens. Ça veut dire que Rabbi Yossé qui avait enseigné cela, que ce riche parti est très, c'est qu'on a juré de ne pas revenir Beyat Hazaka Bechoma, Bechoma, Beyat Hazaka Beyachad, ça ne porte pas comme objection contre Rabbi Zera. Comment?
Parce que le grand distal doit être le sens et pour les autres.
Non, ça ne mord pas du tout sur l'argument. Parce que l'argument, c'est que ce verset-là, ça veut dire Bechoma. Ça veut dire Beyat Chazaka, Beyachad. Ça porte plus sur les clés Kodesh. Ça, c'était l'autre raisonnement. Je vais vous dire la réponse de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va lui dire, quand il entend l'objection de Rabbi Zera, Rabbi Yehuda va lui dire, non, je ne te parle pas de ce verset-là, j'en ai un deuxième en chouache. Celui-là, d'accord, prends-le pour le Choma. J'en ai encore un autre. Vous savez? Qu'est-ce que c'est fait? Je vous dis à l'avance, oui, et on en a quatre. Je vous le dis à l'avance, parce que ça, évidemment, vous ne pouvez pas le réintégrer par le raisonnement simple. Et en fait, on voit là qu'il y a une exposition de la Gemara, que tout se passe comme si la Gemara nous formule cette discussion, qui a probablement dû durer des années, et avec d'autres formes que la forme de la Gemara. La Gemara ici formule, Beruah HaKodesh, la discussion type sur ce thème. C'est clair? Il y a une exposition pédagogique. La Gemara en profite pour nous dévoiler les six signes un après l'autre. Je vous ai dit qu'il y avait six signes et un septième. Okay? Et comment ça correspond? Il y a trois versets où c'est redoublé, Ta'iru et Ta'oreru. Donc ça fait chaque verset deux signes, éveil et réveil. Et le septième verset, c'est le quatrième verset. Et le septième signe, c'est le quatrième verset. C'est clair, la composition. Alors on va suivre maintenant facilement. Vera Bezera Aou. Sheloya Alou Israël Bechoma. Rabbi Zera lui répondra ça, ce verset, nous l'avons entendu de Rabbi Yossé, comme il va le confirmer tout à l'heure, c'est le serment de ne pas revenir ensemble et prêt à la guerre. Je vais parler en termes contemporains pour que ce soit clair, c'est-à-dire en mouvement national et prêt à la guerre avant les signes du temps. Et simplement, je vous indique, et ça, notez-le dans un coin, parce que la discussion viendra après la Gemara dans deux ou trois cours, je suppose, La première fois que c'est arrivé ensemble et prêt à la guerre, c'est avec les nonciers. Alors ici, nous aurons une discussion de méthode thermique très fine. C'est le signe qui est le signe du signe. C'est pas autre chose qui est le signe autre que le signe. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Ça veut dire, 2000 ans, les Juifs ont pleuré comme Rabbi Zera et sont venus sans arrêt à l'échelle individuelle. La seule fois qu'ils ont réalisé cela, qui est le premier signe que le temps est arrivé, c'est avec le mouvement ciel. Dans quelle définition ? Mouvement national et prêt à la Haganah. C'était pas un mouvement national, c'était toujours un mouvement religieux mystique. Et avec impuissance devant les forces militaires du temps, que ce soit les Perses, que ce soit les Turcs, etc. Est-ce que c'est clair ? Et je vous dirais mieux, je crois que je l'ai indiqué la dernière fois, il y a une différence de nature. Je prends l'exemple du sabbatéisme. Où est le vice du sabbatéisme ? A priori, c'est quelqu'un qui dit qu'il est le Messie et que les autres doivent le suivre. Or, bien sûr, comme le Messie va en Eretz Israël, il appelle les gens derrière lui en Eretz Israël. C'est pas ce qu'on attend. Les signes du retour, c'est pas ça. Les signes du retour, c'est, comme dit Rashi, Yachad Yachazaka, c'est que le peuple juif à l'échelle nationale décide de revenir. Et alors ça, c'est le commencement des temps messianiques. Et ça, nous vérifierons dans la halakha, premièrement chez Maïmonide, que c'est comme ça que c'est que la halakha. C'est pas quelqu'un qui dit « Je suis le Messie, suivez-moi ». C'est le peuple juif qui revient, ça veut dire que son chef est le Messie. Est-ce que c'est clair, juste? Et vous voyez que ce sont deux mentalités de lecture radicalement différentes, qu'on ne peut pas s'expliquer de l'une à l'autre, à moins d'étudier ensemble. Mais discuter, on ne peut pas. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est un peu ce qu'on indiquait tout à l'heure. Avec le même texte, on vous fera lire à l'envers. On dira, et où est le Messie? Alors on vous dira, oui, et on reviendra ensemble et avec force quand le Messie sera là. Où c'est écrit? Quand le Messie sera là. C'est l'inverse. C'est dommage l'inverse. Est-ce que c'est clair? Je vous donnais un jeu de mots que j'ai entendu dans la maison de la famille. C'était un jour de pourri, mais ça fait rien. C'est un jour de pourri. Et voilà comment il nous disait, Hertel. Il nous disait, Harabani, Tichrona Mouva. C'était pour l'expliquer. Ça, je reconnais. Harabani, Tichrona Mouva. C'est bien. C'est-à-dire celui qui a récapitulé l'enseignement des rabbins, Tichrona Mouva. Comme ça qu'on prononçait sur lui. Ça ne dira pas du salut. Vous attendiez pas cela. Bon, et je reviens au. Non, je vous rappelle, ne me trompez pas, c'est un pourri. Mais vous savez que pourri, c'est une fête très sérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je dis. Tu veux dire tout simplement? Bon. Alors, voilà donc l'objection de Rabbi Zera. Ça veut dire ton verset à toi, ça indique le signe du retour collectif. Et le signe, c'est à vous que je précise lequel. Et le signe du retour collectif, c'est lui le signe que c'est le signe du retour. Encore une fois, on ne cherche pas un signe pour le retour, sinon les signes du retour. Or, premier signe du retour, c'est que c'est, comme dit Rashi, Yahad Beyad Hazaka. C'est pas que quelqu'un a trouvé une pâquerette à six pétales et il a dit c'est le temps messianique. C'est pas ces signes-là qu'on cherche. Ça, c'est les signes de la compréhension.